bonjour.
Bonjour, Monsieur Kane.
Le grand jury reçoit le maire de Sikap Mermoz Sacré-Cœur et président du mouvement des jeunes socialistes. Batlemi Diaz, bonne fête de Pentecôte d'abord.
Mais merci.
À vous et à tous. La première question, 5 mois de prison ont-ils émoussé l'ardeur de Batlemi Diaz?
Mais écoutez, 5 mois de prison, c'est vrai que ce n'est pas 5 jours. Mais comme tout le monde le sait, j'ai été arrêté suite, malheureusement, à un incident que je considère comme étant regrettable. Parce que, une fois de plus, il y a eu mort d'homme. Mais ces 5 mois qui, je pense, auraient pu être évités si, dans le contexte préélectoral, le régime d'alors qui était au pouvoir avait su raison garder et n'exploitant surtout pas la misère de certains jeunes, je crois que je n'aurais pas eu à faire ces 5 mois de prison parce que je n'aurais pas eu à traverser cet incident.
La fougue est toujours là.
Ben écoutez, vous savez, la fougue...
Vous êtes assagi, la prison vous a assagi.
Bon, la prison, d'abord, c'est pas la première fois que j'ai eu à faire la prison. J'ai eu à faire la prison en 2006, toujours pour des raisons politiques.
Déjà.
Et je disais à l'époque...
À l'époque à Tambacounda.
Exactement. Oui. Donc, mon séjour carcéral en 2006 était honnêtement beaucoup plus difficile que celui-ci. Parce que j'ai fait Tambacounda, j'avais fait aussi le camp pénal. Oui. Mais je disais à l'époque que tant qu'Abdoulaye Wad et son régime étaient au pouvoir, je considérais que j'avais un pied en prison. Parce que j'ai été dans un rôle bien précis, c'était de mener le combat pour la conscientisation des jeunes. Il fallait impérativement que les jeunes comprennent qu'Abdoulaye Wad n'était pas un mythe, qu'il devait être démystifié, démythifié, et puis être combattu et être à la limite mis sous la touche. Et je rends grâce à Dieu que je peux dire en toute modestie que j'ai apporté une contribution assez significative par rapport à l'éveil des consciences des jeunes. Et le résultat, c'est ce que nous avons tous vécu le 25 mars avec beaucoup de fierté.
Vous avez la conviction que Maître Abdoulaye Wad, le chantre du Sopi, le combattant de la liberté, comme disent ses partisans et d'autres citoyens tout simplement, a été démythifié, démystifié?
Ah mais il le fallait parce que...
Il a été,
et ces jeunes qui ont combattu depuis le 23 juin dans la rue ne sont pas des jeunes appartenant à une quelconque formation politique. C'est vrai que on était sur le terrain, mais c'était impossible pour la jeunesse politique de mener ce combat. Mais ce sont les jeunes, particulièrement des différentes capitales régionales, qui sont descendus dans la rue et qui ont dit effectivement il faut faire partie de ce régime parce que c'est une bombe à retardement pour notre avenir. Et je reste convaincu que c'est en redoublant d'efforts avec notre abnégation qu'on a pu convaincre sans contraindre ces jeunes à comprendre l'importance des enjeux. Et c'est la raison pour laquelle entre les deux tours, quand certains étaient en train de vouloir analyser la situation, du fond de ma cellule, j'ai fait comprendre à mes camarades qu'il n'y a pas de place à l'analyse. C'est que Wad doit partir. Et c'est l'engagement qu'on avait pris et il faut le respecter. Que ce soit Macky Sall ou quelqu'un d'autre, il faut le respecter parce que Wad doit partir. Et une chose est claire, sûre et certaine, c'est que personne ne pourra faire pire que Wad. C'est pas possible.
Attendez, vous dites il va partir, il est parti. Vous dites qu'il est démythifié, démystifié, mais il se trouve qu'il est encore là. Il vient de tenir une conférence de presse pour avertir en disant si on ne me laisse pas tranquille, on ne laisse pas tranquille ma famille et ceux qui étaient avec moi au pouvoir, je peux déstabiliser le pays même si je ne le fais pas.
Écoutez, moi je ne pourrais pas commenter les propos du président Abdoulaye Wad parce que depuis le 25 mars, moi j'ai décidé de ne plus écouter Abdoulaye Wad.
Pourquoi?
Parce qu'Abdoulaye Wad appartient à la préhistoire. Il faut savoir avancer dans la vie. Abdoulaye Wad doit prendre de la hauteur à l'image de ce que le président Abdou Diouf avait fait. Et si Abdoulaye Wad continue quelque part à s'exciter, eh bien moi je reste convaincu que c'est pour amuser la galerie. Mais je reste convaincu que Macky Sall a assez de personnalité et s'est appuyé sur des ressources humaines qui sont assez averties pour savoir ce qu'il a à faire. Parce qu'il y a des choses, ce n'est même pas la peine de discuter là-dessus. Tout le monde sait qu'on a pillé ce pays. Ce qu'il y a lieu de faire, tout le monde le sait, et bien le président Macky Sall, c'est ce qu'on attend de lui.
Est-ce qu'on peut attendre de vous le même engagement, en tout cas dans la combativité contre le régime du président Wad, qu'avec Macky Sall?
Mais écoutez, M. Kane, d'abord avec Macky Sall, je vous rappelle qu'aujourd'hui, je me considère dans la mouvance présidentielle, parce qu'on a noué un partenariat, la coalition Benno Actanor. Nous avons noué un partenariat avec la coalition Maki 2012, et ce partenariat, nous devons nous efforcer à ce que ce partenariat soit vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Et le seul qui peut gagner dans ce partenariat, c'est le peuple. Donc Macky Sall, nous devons l'accompagner pour qu'il réussisse. Parce que si Macky Sall échoue, quelque part, nous avons une part de responsabilité. Ça, il faut qu'on se comprenne. Maintenant, la différence entre le combat que j'ai mené contre Abdoulaye Wade et celui, je veux dire, que je compte maintenant mener, c'est qu'il faut se souvenir que j'ai dirigé les jeunesses socialistes dans un parti qu'on appelle l'EPS et qui avait boycotté les élections législatives. Et donc, mon seul cadre d'expression, c'était la rue. C'était la rue. Et si par la grâce de Dieu, nous remportons les prochaines législatives, mais mon nouveau cadre d'expression, ça sera le législatif, l'Assemblée nationale. Donc ce n'est pas le même style de combat. Mais à l'Assemblée nationale, il ne faut pas compter sur nous pour applaudir. Mais nous allons applaudir ceux qui méritent d'être applaudis. Nous allons aussi attirer l'attention de l'exécutif particulièrement sur ceux qui méritent d'être pris en compte, bien sûr, pour l'intérêt général de la population.
Barthélémy Diaz, nous revenons sur l'affaire Diaga Diouf. Ne vous en faites pas, nous allons beaucoup en parler. En attendant le procès, si procès il devrait y avoir, pouvez-vous jurer devant le grand jury de n'être pas le tueur?
Mais écoutez, M. Khan, vous savez, d'abord, par rapport au respect de l'instruction, le secret même de l'instruction, je ne peux pas m'avancer sur certaines choses. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le doyen des juges d'instruction, M. Diouf, qui m'a accordé la liberté provisoire, vous pouvez être sûr et certain qu'il ne m'a pas accordé la liberté provisoire pour le plaisir de mes beaux yeux.
Vous n'avez pas tué Diaga Diouf?
J'ai dit ce que j'ai fait. Et ce que j'ai fait, j'ai bien expliqué lors d'abord de l'enquête préliminaire que ce dont on m'accuse, ce n'est pas possible par rapport aux armes que je détenais et par rapport à beaucoup de choses, particulièrement des éléments assez essentiels de l'enquête qui sont actuellement en possession du juge. Je ne vais pas rentrer dans le fond du débat, mais la distance et beaucoup d'autres choses n'ont pas pu faire en sorte que je sois l'auteur du meurtre qu'on cherche à mettre sous mon dos. Ce n'est pas possible. Maintenant, ce qu'il faut retenir...
Vous n'avez pas tué, vous ne répondez toujours pas à la question.
Mais c'est clair et net, ce n'est pas du tout. Parce que si je l'avais fait, mais je ne serais pas en liberté provisoire. Et personne ne pourrait convaincre le juge de me mettre en liberté provisoire. C'est moi qui ai pu convaincre le juge sur la base du procès verbal et de l'enquête préliminaire, sur la base de la reconstitution des faits, que j'ai pu convaincre le juge que je n'ai pas pu tuer ce jeune homme.
Qui a tué alors?
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qui a tué. Mais c'est que c'est peut-être pas le débat aujourd'hui, parce que Wade est parti. Permettez-moi, je veux dire, c'est peut-être pas le débat aujourd'hui, parce que Wade est parti. Mais tout le monde a eu à constater ce qui s'était passé avant que Wade parte en termes de sacrifice humain et tout le reste qui a été fait dans ce pays. Et je vais pas aller, parce que j'ai déjà dit que je dois respecter le secret de l'enquête, c'est important, de l'instruction surtout, c'est important. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut qu'on retienne une chose, c'est que moi, Barthélémy Diaz, j'ai été victime d'une agression où on a cherché à m'assassiner. Et ça, je ne veux pas non plus que les gens l'oublient, parce que je ne me suis pas levé comme ça le matin et je m'ennuyais, je suis sorti de chez moi et j'ai décidé que, soi-disant, je devais aller me battre. Ça ne s'est pas passé comme ça. On est venu me trouver dans mon lieu de travail, qui se trouve être en l'occurrence une mairie. Mais c'est comme si vous dites, Mamadou Ibrahim Kan, demain, qu'on a attaqué la présidence de la République. On n'attaque pas la présidence, on n'attaque pas une gouvernance, on n'attaque pas une préfecture, on n'attaque pas un tribunal, ça ne se fait pas. La mairie, c'est l'État, ça ne se fait pas. Et il faut aussi retenir qu'ils n'étaient pas à leur premier coup d'essai. Je vous rappelle au passage qu'on avait déjà eu assisté à des descentes au niveau des domiciles de certains leaders politiques, dont Mustapha Niass. Et je prends le cas, par exemple, de Mustapha Niass. Mais M. Mustapha Niass, quand ses nervis sont venus devant chez lui, mais il est sorti de chez lui. Il est sorti avec une arme, mais parce qu'il a sa famille à l'intérieur de son domicile. Et c'est la constitution du Sénégal qui lui donne le droit de se défendre. Il faut qu'on reste dans le contexte. Et aujourd'hui, temps, je continue à dire...
Nul n'a le droit de se faire justice.
Mais nul n'a le droit de se faire justice. Mais M. Khan, c'est que, comme j'ai dit tantôt, je ne peux peut-être pas aller trop loin dans le débat, mais je vous rappelle que c'est moi qui ai appelé la police. C'est moi, et ça a été vérifié, c'est moi qui ai appelé le commissariat de Diopel. Et quand le commissariat de Diopel est arrivé, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Mais malheureusement, les choses ont dégénéré. Moi, je me suis défendu. Et qu'il soit bien dit, entendu et retenu que si je suis agressé à nouveau, mais je suis obligé de me défendre. Vous savez, M. Khan, moi, je suis entré en politique pour apporter ma contribution. Je ne suis pas entré en politique pour y laisser ma vie. Et personne ne pourra me reprocher, moi, à Barthélémy Diaz au Sénégal, d'avoir attaqué un quelconque leader politique physiquement ou d'avoir envoyé des individus attaquer physiquement un quelconque leader politique. Cela ne s'est jamais passé au Sénégal. On peut m'accuser, effectivement, de violence verbale, mais comme j'ai dit, la violence verbale, je l'ai trouvée ici, je la laisserai ici.
Alors, vous dites que vous n'êtes pas le tueur. Wade est parti, Macky Sall est arrivé. Justement, il se trouve qu'il y a des Sénégalais qui pensent que vous avez été libéré parce qu'il y a alternance pour vous permettre de participer aux législatives de juillet prochain.
Mais non, M. Khan, vous savez, je crois que les Sénégalais, personne ne peut interdire aux Sénégalais de spéculer, de réfléchir ou de discuter ou d'analyser une quelconque situation. Mais ce qu'il faut retenir, et surtout par respect à la justice sénégalaise, c'est qu'il faut retenir que, avant qu'Abdoulaye Wade parte, j'avais introduit une demande de liberté provisoire qu'avait refusé le doyen des juges d'instruction. Et après le départ d'Abdoulaye Wade...
Le même doyen des juges.
Le même doyen des juges, monsieur Diouf. Et je peux vous garantir que M. Diouf, ce n'est pas le genre de personne qui va se faire intimider. Et après le départ d'Abdoulaye Wade, j'ai introduit encore une demande de liberté provisoire auprès de M. le doyen des juges. Il a encore refusé, et Macky Sall était président de la République. Mais c'est une fois qu'il m'a entendu dans le fond, qu'il a considéré qu'il pouvait me mettre en liberté provisoire. Et je voudrais vous dire ici, M. Khan, ces mêmes Sénégalais dont vous faites allusion, qui disent que voici leur point de vue, que je respecte au passage. Mais est-ce qu'ils se sont indignés quand des gardes du corps d'Abdoulaye Wade ont été amenés à Rebus et le même jour, ils ont été entendus dans le fond par le doyen des juges et que le même jour, qu'ils soient mis en liberté provisoire. Et ils sont très loin de donner plus de garantie de représentation devant la justice que moi qui suis un élu du peuple. Je vous rappelle que je dirige une commune d'arrondissement de 42 000 personnes. Je ne peux pas disparaître dans la nature. Mais je n'ai jamais commenté la décision du juge. Mais parce que sa décision, elle est souveraine. Il a le droit de dire je mets telle ou telle personne en liberté provisoire sur la base des informations qui sont à ma possession. Et puis les nervis, quand ils ont été mis en liberté provisoire, est-ce que les Sénégalais, ils en ont fait une montagne ? Certains d'entre eux, ou bien certains qui se prononcent actuellement.
Oui, et moi, vous savez, parfaitement.
Mais vous voyez donc, mais ils sont indignés parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre que ceux-là soient en liberté provisoire et que moi qui sois victime dans cette affaire et que moi je ne sois pas en liberté provisoire. Et aujourd'hui, je vous dis, la liberté provisoire, j'ai d'abord commencé au niveau de la CEDEAO. Parce que j'avais un conseil qui considérait qu'on devait l'obtenir. On ne l'a pas obtenu au niveau de la CEDEAO et j'ai été rejeté à 3 reprises ou 4 reprises. Et je n'ai jamais, ni moi personnellement, ni aucun de mes conseils juridiques, nous n'avons jamais eu à tenir des propos discourtois à l'endroit de la justice. Parce que je considérais que je pensais sincèrement que je devais pouvoir être mis en liberté provisoire le temps de vaquer à mes occupations et une fois être entendu dans le fond que le dossier allait avancer. Et la preuve, parce que je disais au juge, au fait, je lui disais, mais par rapport aux informations que vous avez actuellement, quand je quittais le commissariat central et que je suis arrivé au niveau du tribunal, je pensais que j'allais être entendu parce que je reste convaincu que si j'étais entendu à l'époque par rapport aux informations que je détenais, que je n'arriverais pas à Rebus. Je n'arriverai pas à Rebus.
Quelles sont ces informations ?
Je ne peux pas en parler.
Vous connaissez le tueur, mais si ce n'est pas vous ?
Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que je n'ai pas tué cette personne. Parce que le calibre que j'avais dans ma main droite ne peut pas tuer cette personne.
Qu'attendez-vous aujourd'hui de la justice?
Mais que justice soit faite, je me tiens à la disposition de la justice. Le doyen des juges, je vous rappelle que je suis sous contrôle judiciaire.
Oui.
Donc je ne peux rien faire sans son autorisation. Il m'appelle à n'importe quel moment, mais je suis tenu de me mettre à sa disposition. Et puis sur les questions, vous savez, quand je réponds, je ne réfléchis pas. Ça vient naturellement. Ça vient naturellement. J'ai été attaqué, on a cherché à m'assassiner. Je me suis défendu.
Pourtant, la famille de Diaké Diouf reste convaincue que c'est vous qui avez tué
Diaké
Diouf.
Mais vous savez,
elle vous menace même.
Non, vous savez, d'abord, je
réitère. Vous prenez ça au sérieux et comment vous le voyez?
Non, là, je n'ai pas entendu de menace. Et j'ai déjà dit que si quelqu'un...
Son oncle a parlé.
Oui, mais vous savez, M. Khan, je rappelle que son oncle, ça a été prouvé et démontré que c'est son oncle qui a participé avec, bien sûr, une certaine école de lutte qui, à l'époque, voulait coûte avoir Abdoulaye Wade comme parrain d'honneur au recrutement de ces jeunes désœuvrés. On a exploité leur misère. Et ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est que son oncle avait des accointances pas trop recommandables au sein du PDS. Et qu'il est présenté, comme un calot bleu. Donc, je suis désolé, je ne vais pas polémiquer avec lui. Maintenant, si son oncle, lui... me menace publiquement, mais je porterai plainte contre lui. Mais je vous dis, je vous le répète, M. Khan, qu'il soit dit, entendu et retenu, que si je suis encore agressé, comme la fois dernière, j'appellerai la police. Et si la police ne peut pas réagir, je vous dis, faites-moi confiance, moi je me défendrai.
Toujours armé, Barthélémy Diaz?
Non, mais la dernière fois que j'ai vérifié, on ne m'a pas retiré mon permis de port d'armes. Mais ça, c'est la constitution du Sénégal qui m'autorise à être armé. Et je ne suis pas armé pour menacer des gens. Et je vais vous dire, M. Khan, tout de même, vous êtes un père de famille comme moi, un responsable comme moi. Mais que serait-il passé ce jour-là, M. Khan, si je n'avais pas les moyens de me défendre, M. Khan? Vous avez imaginé une minute? Que serait-il passé ce jour devant la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur si je n'avais pas les moyens de me défendre? Mais il faut tout de même que les gens soient un peu sérieux dans cette histoire, parce que ce n'est pas une rigolade. On a voulu m'assassiner. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu d'être en vie, parce que s'ils avaient réussi leur coup, il n'y a que mes parents qui auraient perdu dans cette histoire. Et c'est ce que je dis, je le dis du fond de mon cœur.
Est-ce que la piste du PDS, parce qu'à l'époque vous en avez parlé, vous avez toujours la conviction que c'est la piste du PDS?
Mais c'est clair et net.
Dans cette affaire.
Mais à l'heure où je vous parle, le doyen des juges d'instruction, M. Diouf, ouais. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, je crois qu'ils appellent ça délégation. Non, je ne pense pas que c'est délégation judiciaire, mais il a donné des instructions pour que certains individus soient arrêtés. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, le ministère de l'Intérieur ne s'est pas encore exécuté. Mais je ne vais pas chercher à savoir le pourquoi du comment. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les véhicules qui ont été utilisés, ils appartiennent au PDS. Ça, c'est clair, net et précis. Premièrement, la logistique appartient au PDS, les moyens sont les moyens du PDS, parce que ces jeunes nervis, mais ne sont pas des militants ou des sympathisants du PDS, pas du tout. On a exploité leur misère pour venir faire un sale boulot qui a malheureusement mal tourné. Et puis, je vous dis, je ne rentrerai pas dans le fond de l'instruction, mais même les premiers éléments qui ont répondu à notre coup de fil ont confirmé qu'ils n'ont pas vu sur place d'hommes tombés. Il n'y a pas eu mort d'homme sur place. Maintenant, je ne rentre pas dans le détail.
Que voulez-vous dire?
Je vous ai dit, je ne peux pas m'avancer. Mais ce que je peux vous dire,
c'est
que
ces véhicules... Vous n'aurez pas été tué sur les lieux?
Ces véhicules, quand ils ont quitté le siège de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur, ils ont tous rallié le QG du PDS. Tous. Tout de même, si vous avez quelqu'un qui est en train de mourir dans une voiture, vous l'amenez à l'hôpital, vous ne l'amenez pas au siège du PDS. Je vous ai dit, c'est le juge qui a ce dossier, c'est au juge de décider. Moi, je ne vais pas décider à la place du juge. Et je ne vais pas juger à la place du juge.
Alors, Barthélémy Diaz est l'invité de l'émission Le Grand Jury sur la RFM. On reste sur cette affaire Diaké Diouf. Un crime sans criminel, disent certains. On peut y ajouter sans commanditaire à l'image de l'affaire de l'assassinat du juge Babacar Sey il y a 20 ans sous le régime socialiste. Que pensez-vous de cette comparaison entre les deux affaires?
Mais écoute, écoutez-moi, M. Khan, je n'ai pas vraiment de point de vue là-dessus, parce que je ne pense pas qu'on peut comparer, parce que Maître Sey, c'était différent de ce cas. Parce que ce cas, Abdoulaye Wade a reconnu publiquement sur RFI que c'est lui qui a envoyé ses nervis. Il a reconnu que ce sont ses nervis. Et il a reconnu que lui, il a été surpris le 23 juin. Il a reconnu aussi qu'il ne serait plus jamais surpris. Et je vous rappelle que c'est Nervi, depuis le procès de Malick Noël Seck, il n'y avait que le commissaire central de Dakar de l'époque qui disait qu'il ne les avait pas vus. Et quand ils sont allés chez Ousmane Tanordjian et chez Moustapha Niass, ben, tout le monde les a vus. Quand ils sont allés chez Bachili et chez Alioune, tout le monde les a vus. Ça veut dire qu'ils le faisaient au vu et au su de tout le monde et avec quelque part la caution du pouvoir de l'époque. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Maître Babacar Sey, c'est une autre histoire. Mais là, ce n'est pas la même chose. Donc il faut, et comme j'ai dit encore une fois de plus, là, ce sont des gens qui sont levés, qui sont déplacés en plein jour, au vu, au su de tout le monde, pour m'assassiner. Ils sont pas venus pour me rendre une visite de courtoisie. Ils sont venus pour m'assassiner.
Alors, question innocente comme ça, avant de passer à un autre thème. Avez-vous parlé avec le nouveau président Macky Sall avant ou après votre libération?
Non, pas du tout. Pas du tout. Macky Sall, j'ai demandé à ce qu'on vote pour lui. Et dans cette histoire, je veux aussi, parce que peut-être si votre question va dans ce sens, je veux que ce soit très clair. Je ne dois rien à Macky Sall. Hein. Ah oui, ça doit être très clair. Je ne vais pas remercier Macky Sall dans cette histoire, parce que je lui dois absolument rien du tout.
Ce serait une maladresse, si vous le remerciez.
Mais ça n'a rien à voir avec une maladresse ou pas, c'est que je remercie mon père, parce qu'il m'a soutenu. Vous comprenez? Je remercie mon parti politique, avec à sa tête Ousmane Tanordjian. Je remercie tous les camarades du M23, qui se sont déplacés, qui m'ont rendu visite, qui sont constitués dans le pool d'avocats, etc. etc. Mais je ne vais pas remercier M. Macky Sall pour quoi que ce soit. Je ne vois pas pourquoi dois-je le remercier.
Alors, je sais que vous devez le savoir parce que vous suiviez les informations à l'intérieur de la prison. Cheikh Bétou Tioune est aujourd'hui en prison à la suite de Sénégalais qui ont été tués, enterrés. Certains disent même que l'un a été enterré vivant. Qu'est-ce que vous en pensez de l'arrestation de Cheikh Bétou Tioune?
Mais moi, je pense qu'au Sénégal,
surtout qu'on dit qu'il pourrait bénéficier, comme vous, de liberté provisoire.
Ce n'est pas à moi de dire si Cheikh Bétou Tioune doit bénéficier de liberté provisoire ou non. Il y a un procureur de la République dans la région où il a été arrêté. Et son dossier est entre les mains d'un juge. Ce que je peux dire concernant M. Cheikh Bétou Tioune, d'abord qui habite ma commune d'arrondissement, c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours eu d'excellentes relations.
C'est votre administré.
C'est mon administré. Mais vous savez, presque toutes les personnalités de ce pays
sont
mes administrés.
Forcément, vous êtes solidaire à lui.
C'est pas une question d'être solidaire. C'est un dossier qui est pendant devant la justice. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne souhaite à aucun Sénégalais d'avoir des démêlés avec la justice. Aucun Sénégalais. Même à mes pires ennemis, je ne leur souhaite pas. Je souhaite vraiment que M. Cheikh Bétou Tioune puisse s'en sortir. C'est ça la vérité.
Mais vous craignez pas que votre libération soit en échange de sa libération prochaine?
Mais c'est que M. Kane, mais pendant qu'on y est, si des gens décident de commencer à réfléchir de la sorte, c'est qu'on n'est plus en République. On est dans du n'importe quoi. Et puis ce ne sont même pas les mêmes dossiers. M. Cheikh Bétou Tioune, ce qui s'est passé dans son dossier, je ne pourrais pas trop le dire. Parce que bon, moi j'ai entendu comme tout le monde que il y a eu effectivement des décès. Et suite à ces décès, il a été interpellé. Mais moi, ce que c'est passé dans mon cas, une fois de plus, moi, je vous ai dit, j'ai été agressé dans mon lieu de travail, qui se trouve être une institution de l'État, et on a cherché à m'assassiner. Et aujourd'hui, vous m'excuserez, vous savez, je suis sorti hier, et j'étais avec une personne qui m'accompagnait faire des courses. Et j'ai fait un saut dans un centre commercial, et ensuite je suis allé à Sandaga. Et cette personne m'a dit, c'est pas possible que les gens vous suivent comme ça. J'ai dit, mais c'est que t'étais pas avec moi hier. Ça a eu le jour d'avant avant-hier. Parce qu'avant-hier, j'étais au village artisanal de Soubédioune. Je n'ai pas pu faire mes courses à cause de l'attroupement.
Vous êtes la star.
C'est pas une question de star. Ça veut dire, si malheureusement, il y a des intellectuels du dimanche qui veulent se mettre ici à faire exprès de ne pas comprendre la situation, mais ça n'engage que ces personnes. Mais ce que je peux vous garantir aujourd'hui, que dans la rue, personne ne m'insulte, à fortiori vouloir m'agresser. Et je vous dis que le 25 mars a eu lieu parce qu'on a mené un combat qui consistait à éveiller les consciences. Et peut-être le pouvoir de l'époque considérait que je devais être mis à l'écart. Ils n'avaient peut-être pas tort. Et peut-être même au passage, vous savez, ils m'ont peut-être rendu service. Parce que le jour, par exemple, de la disparition du jeune policier Fode Ndiaye, au passage, je présente mes condoléances à la police sénégalaise et à sa famille. J'étais convaincu que si j'étais dehors, on m'aurait imputé ce crime. J'étais convaincu.
Ah oui?
Ah oui.
Pourquoi?
Parce que moi, il fallait me liquider à tout prix. Même sans y mettre les formes, à tout prix. À tout prix. Et je présente aujourd'hui mes condoléances aux familles de tous ces jeunes disparus, y compris la famille du jeune Diago Diouf. Je l'ai déjà dit, j'espère que sa famille acceptera mes condoléances. Et je ne peux pas vraiment dire plus que ça, parce que j'ai déjà dit que cette situation, elle est regrettable. Elle est regrettable parce qu'une fois de plus, il y a eu mort d'homme.
Alors, on s'achemine vers le 23 juin, ça marquera un an de ce que Decon parlait, le printemps sénégalais, la révolution à la sénégalaise. Alors, comment allez-vous vers cet anniversaire du M23 au lendemain de votre libération?
D'abord, le M23 ne pourra pas être célébré si les jeunes qui sont en prison depuis le 23 juin et le 27 juin ne sont pas libérés. Ça, il faut d'abord
qu'il y en a encore.
Mais il y en a encore. Et à l'heure où je vous parle, j'ai la liste exhaustive de tous ces jeunes et les chefs d'inculpation qui sont retenus contre eux, et ainsi que les noms des juges qui ont en charge leur dossier.
Ils sont au nombre de combien, que le reproche-t-on?
À l'heure actuelle, la liste que j'ai, c'est un peu plus d'une vingtaine. Et je dois dire que Maître Mam Adam Gueye m'a déjà contacté. Je le remercie au passage de sa disponibilité. Et mardi matin, première heure, il aura à sa disposition la liste exhaustive de tous ces jeunes. Personnellement, je vais parler au secrétaire général du Parti Socialiste, M. Ousmane Tanangin, lui demander de constituer un pool d'avocats pour la défense de ces jeunes. J'ai déjà dit que ce n'est pas la personne de Alioune Tine que je critique.
Oui, qui a c'est répondu en disant que vous n'étiez pas assez bien informé.
Je n'ai pas entendu sa réponse, mais je voulais vraiment attirer son attention sur ce problème, et puis dire que ce n'est pas la personne d'Alioune Tine que je critique. Je remets en cause l'attitude du M23. Il faut qu'on arrête dans ce pays de mener des combats avec des gens, particulièrement des jeunes, et qu'une fois que ces jeunes sont arrêtés en prison, on fait comme si oui, rien ne se passe. C'est pas acceptable.
Le M23 aurait-il trahi la cause?
Mais pour moi, le M23...
Du peuple, comme on le dit avec grandiloquence.
Vous savez, je suis membre du M23.
Oui.
Donc, si je critique le M23, je critique aussi ma formation politique. Je considère que dans moins de 30 jours, le mois prochain, nous sommes au mois de juin, ça va faire un an, jour pour jour, que des combattants de la liberté sont en prison, que des combattants de la démocratie sont en prison. Ce n'est pas acceptable. Et comme disent les Wolofs, nous sommes...
Pour le régime précédent, c'était des vandales.
Oui, mais
des fauteurs de troubles.
Mais bon, vous savez, quand ce sont des voyous qui critiquent des fauteurs de troubles, si vous êtes fauteur de troubles, rendez grâce à Dieu. Surtout si vous êtes fauteur de troubles au nom de la démocratie sénégalaise. Parce qu'il s'agit de quoi? C'est que le 23 juin n'a pas démarré le 23 juin. Le 23 juin, ça a démarré le 20 juin à Sanaga et avec les jeunes socialistes. Et personne n'était au courant de cette loi qui devait passer à l'Assemblée 3 jours après. Ou bien personne ne s'était vraiment mobilisé pour cela. Et je le dis en toute modestie, quand on est parti à Sanaga, nous, notre objectif, c'était de se faire arrêter ou de se faire tabasser. Seulement pour attirer l'attention des Sénégalais sur ce qui allait se passer dans 3 jours. Parce qu'on n'avait pas les moyens d'arrêter cela. Et une fois qu'on a été arrêté, remis en liberté, c'est le lendemain que l'actuel ministre, cher Bamba Dieye, s'est attaché aux grilles de l'Assemblée.
Oui.
Moi-même, je me suis déplacé. J'ai lancé un appel de la place Soweto. Je crois que c'est ça le nom, la place Soweto.
Oui, oui.
Ensuite,
juste devant l'Assemblée
voilà,
nationale.
Ensuite, le 22 juin, il y a eu Daniel Brottier. Ça veut dire que ce sont toutes ces manifestations, toutes ces sorties... Oui. qui ont fait en sorte que le 23 juin ait eu lieu. Et moi, aujourd'hui, je fais peut-être partie des premiers leaders politiques qui ont eu à demander à cette jeunesse de descendre dans la rue. Donc je n'ai pas le droit de laisser ces jeunes en prison. Pour l'histoire, c'est important, et surtout pour la postérité. Parce que demain, si on doit combattre un autre régime, mais les jeunes ne vont plus suivre. C'est pas normal que les jeunes soient en prison pour trouble à l'ordre public au bout d'un an. C'est du n'importe quoi.
Certains ont même été tués. Alors, à quelques semaines de cet anniversaire du M23, quel est votre sentiment? Que le M23 n'est plus que l'ombre de lui-même ou qu'il est toujours d'actualité?
Écoutez, vraiment, j'ai peut-être tort, hein, mais je vais me permettre de donner mon point de vue. Je pense que le M23 n'est plus vraiment d'actualité dans l'esprit même du M23. Parce que l'esprit de création du M23, il faut qu'on se dise des vérités, c'est que l'objectif a été atteint. C'était que la Constitution soit respectée, bon, même si on n'a pas pu obtenir gain de cause là-dessus, mais le produit final, je crois qu'il y a de quoi s'en réjouir. Donc aujourd'hui, je crois que M. le Président Macky Sall s'est engagé à respecter les conclusions des assises, ou bien je crois l'esprit des conclusions des assises, et je reste convaincu que les ressources humaines qui l'entourent, quand on voit M. Ahmad Dansoko, ainsi que d'autres références, je ne veux pas dire qu'on peut dormir sous nos lauriers, mais bon, il y a de quoi espérer.
Que feriez-vous si cet espoir venait à être déçu?
Mais c'est tout à fait naturel, je redescends dans la rue. Moi, j'ai choisi de faire de la politique. Vous savez, Barthélémy Diaz, je vous l'ai déjà dit, le combat cette fois-ci, ce sera au sein du législatif à l'Assemblée nationale. Mais je vous dis, comptez pas sur moi pour applaudir parce que je suis allergique à certaines choses.
Les législatives, allons-y. Barthélémy Diaz, vous qui êtes l'invité du Grand Jury ce dimanche, les élections législatives, c'est le 1er juillet. La campagne démarre au tout début du mois de juin. Quelle configuration vous entrevoyez de cette future Assemblée nationale à la fin de ces législatives?
Moi, je pense que nous devons avoir une majorité à l'Assemblée nationale et une majorité qui puisse s'identifier aux aspirations des populations.
Vous êtes investi sur les listes de Benno Bokayaka.
Mais alors, par rapport à cette investiture, parce que j'ai entendu beaucoup de bruit, mais vous me permettrez de dire que, vous savez, le Parti Socialiste, c'est pas un groupement d'intérêt économique. Il ne serait pas possible, au fait, de ne pas m'investir. C'est comme si aujourd'hui, on disait qu'on n'investissait pas le mouvement des femmes. C'est pas ma personne qui a été investi. C'est le mouvement national des jeunesses socialistes qui a été investi. Et moi, je n'ai pas encore été reconnu coupable de quoi que ce soit, alors quand certains se mettent ici à verser dans une malhonnêteté intellectuelle en voulant remettre en cause mon investiture, je me pose vraiment des questions sur quelle base c'est dans sa vie.
Il est éthique quand quelqu'un est mis en examen, ce qu'on appelle inculpation chez nous, voilà, qu'il se retire de la scène pour que les choses soient clarifiées.
Mais vous savez, aujourd'hui, je ne vais pas, comme j'ai dit encore une fois de plus, certains peuvent se mettre ici à en discuter. Mais quand je menais ce combat, je pense que chacun sait où il était. Et moi, je ne me suis pas, une fois de plus, retrouvé dans cette situation de par mon désir. Je me suis retrouvé dans cette situation parce que certains, les mêmes qui n'ont pas voulu que je participe à l'élection présidentielle pour des raisons qui leur sont propres, je crois que ce serait de leur donner gain de cause que de faire en sorte aujourd'hui que je ne puisse pas servir mon peuple à l'hémicycle. Alors, et par la grâce de Dieu, vous verrez vous-même que je reste convaincu que je ne serai pas inculpé dans ce dossier parce que je reste convaincu que le juge saura faire preuve d'objectivité.
Alors, cette future Assemblée nationale, je pose la question sur sa configuration parce qu'il y a un débat sur le fauteuil du président de l'Assemblée nationale. Moussa Fagnas est en tête de liste. Beaucoup voient tout naturellement qu'il soit le président. Moustapha Cissélo de l'APR conteste cela. Il y a aussi qu'on parle du gouvernement, quel gouvernement après législatif. Que pensez-vous de tout ce débat? D'abord la présidence de l'Assemblée nationale.
Écoutez, pour la présidence de l'Assemblée nationale, ce que je peux vous dire, c'est que si Ousmane Tanordien est candidat, eh bien, ça sera mon candidat.
Il le sera?
Je vous dis, si il devient candidat, il sera mon candidat. S'il n'est pas candidat, le candidat qui sera soutenu par le Parti Socialiste, eh ben, je voterai pour ce candidat. Et je crois que la dernière fois que j'ai vérifié, le partenariat entre Tanor et Macky tient la route. Donc le moment venu, vous savez, le président de l'Assemblée nationale, ce n'est qu'un député parmi tant d'autres qui a été choisi pour diriger l'hémicycle. C'est pas lui qui fera la pluie et le beau temps.
D'accord. Maintenant, nous sommes dans un partenariat politique. Moussa Fagnas a-t-il le profil pour être le président de l'Assemblée nationale?
Mais bien sûr, c'est naturel. Et Moussa Fagnas, c'est mon oncle, hein, je vous dis, je le soutiendrai les yeux fermés si le Parti Socialiste décide que c'est le candidat qu'il faut soutenir. Et quelqu'un comme Moustapha Cissélo, c'est mon ami, ça, je veux que les choses soient claires. Mais moi, je ne peux pas soutenir Moustapha Cissélo parce que c'est mon ami, ou soutenir M. Moustapha Fagnas parce que c'est mon oncle. La décision qui sera arrêtée par le Parti Socialiste par rapport au partenariat qui nous lie à M. Macky Sall, comptez sur moi pour respecter ce choix.
Vous pourrez être amené à dire à Macky Sall, la présidence de l'Assemblée nous intéresse, nous, socialistes.
Vous savez, c'est d'abord une question d'abord de volonté individuelle. Mais si Ousmane Tanordien n'est pas intéressé par ce poste, il n'y a aucune importance à ce que le Parti Socialiste commence à lorgner ce fauteuil, ça ne sert à rien du tout. Et puis, les camarades socialistes qui ont été investis, je les connais presque tous et toutes, et je pense que personne n'est intéressé par le perchoir de l'Assemblée nationale.
vous du tout?
Non, moi ça ne m'intéresse pas.
Le gouvernement maintenant, vous avez vu comment il travaille depuis quelques mois. Est-ce que selon vous, il doit être réajusté, ajusté, reconfiguré au lendemain de ces législatives, le gouvernement que dirige Abdoul Mbaye?
Non, je pense que ce serait trop tôt de mon point de vue. Moi je pense que les Sénégalais ont été habitués à certaines pratiques qui n'honorent pas la République. Donc je pense qu'il faut donner à ce gouvernement le temps de faire ses preuves. Et puis il faut au moins retenir une chose, c'est que nous avons des profils dans ce gouvernement qui sont assez intéressants. Et je reste convaincu que si Macky Sall vraiment s'appuie sur l'esprit des Assises nationales, je reste convaincu que les choses iront de l'avant.
Alors, Barthélémy Diaz, nous allons aborder un autre sujet. Cela concerne justement le Parti Socialiste. Ousmane Tanordien était votre candidat. Il n'a pas été élu. Il a même eu à dire qu'après cette élection, qu'il va se retirer. Il ne se retire pas pour le moment. Qu'est-ce qui se passe?
Bon, alors, les questions concernant le Parti Socialiste ou certaines questions, je ne vais pas vraiment... vous raconter n'importe quoi. Elles ne peuvent être discutées. Mon point de vue n'a aucune importance. Elles ne peuvent être discutées que dans les instances du parti. Et en l'occurrence, le comité central. Et ensuite, le bureau politique. Ce qu'il faut retenir, c'est que Ousmane Tanordien a bel et bien dit qu'il ne sera plus candidat à une élection présidentielle. Ça, tout le monde l'a entendu. C'est clair. Bon. Maintenant, il faut savoir...
Et qu'il va même quitter la direction du parti.
Non, moi, je vous dis des choses comme je les ai... bien compris, c'est que Ousmane Tanordien avait dit qu'il ne se présenterait plus à une élection présidentielle. Mais moi, je n'ai jamais entendu Ousmane Tanordien dire qu'il se retirait de la vie politique. Jamais. Mais le fait qu'il ne soit plus candidat à l'élection présidentielle, ça c'est clair et net. Mais vous savez, comme je disais à certains camarades, je leur ai dit, mais le moment est venu, nous allons discuter, échanger. Est-ce que les Sénégalais aujourd'hui, je vous donne un exemple, comme en France, est-ce que les Sénégalais peuvent comprendre par exemple, parce que ce ne sont pas les militants du PS qui vont élire un président de la République. Mais est-ce que les Sénégalais peuvent comprendre que quelqu'un ne soit plus candidat pour une élection présidentielle et puis souhaite diriger un parti politique? Ça, c'est un autre débat. Mais on a vu ce qui s'est passé en France. On a vu des primaires où M. Hollande s'est opposé au premier secrétaire du Parti Socialiste et passé avec l'aval des militants et puis a été retenu comme le candidat socialiste. Et puis aujourd'hui, il est président de la République. Et le premier secrétaire reste à son poste. Nous avons vu d'autres formules ici. Nous avons vu des formules où même Abdou Diouf lui-même, avant de partir, il était président du parti. Et à l'époque, celui qui dirigeait le parti, vraiment, était le premier secrétaire. Ou peut-être le secrétaire général. Il y a plusieurs formules. Mais moi, je vous dis les choses pour qu'elles soient claires et nettes. Que personne ne compte sur moi pour mener une quelconque guerre pour mettre Ousmane Tanordien à la porte. Jamais de la vie. Et je reste convaincu que le Parti Socialiste lui sera toujours reconnaissant par rapport à ce qu'il a eu à faire de 2000 à nos jours. Maintenant, ceci étant dit, c'est sûr que le Parti Socialiste regorge de ressources humaines qui peuvent aujourd'hui servir le Parti Socialiste et servir le Sénégal. Et le moment venu, mais je vous garantis que ces ressources humaines feront ce qu'elles auront à faire.
Parlons de ces ressources humaines. Que pensez-vous des ambitions prêtées à Aissata Tall Sall et à Khalifa Sall de succéder à Ousmane Tanordien à la tête du Parti Socialiste?
Mais vous savez, moi, je vais vous répondre par une question. C'est que quand on parle d'Aissata Tall Sall, bien sûr, qui est ma tante, Khalifa, un grand frère, je les salue tous au passage, mais je demande pourquoi est-ce qu'on m'oublie? Pourquoi on oublie Abdoulaye Wilane? Pourquoi on oublie Serigne Baïtiam? Pourquoi on oublie Amin Tembengay? Pourquoi on oublie Alioune Doye, Jean-Baptiste Diouf et tant d'autres camarades socialistes? Vous comprenez? Mais ceci étant dit, mais l'ambition est le moteur de la vie. Et heureusement qu'ils ont de l'ambition, parce que s'ils n'en avaient pas, ce serait un peu triste pour le Parti Socialiste. Mais c'est que le moment venu, c'est un choix qui appartient aux militants du Parti Socialiste. C'est de choisir celui qui va diriger le parti. Et ceci étant dit, sachez que celui qui va diriger le parti sur le plan politique peut ne pas être celui qui sera le candidat. Je vous donne un exemple très simple. Le département de Dakar est dirigé par M. Doudou Issa Niasse. Et quand on choisissait le maire de la ville de Dakar, ça n'a pas été le responsable de Dakar, qui devait l'être, parce que sur le plan politique, c'est supposé être la logique. Mais la base avait choisi que ce serait Khalifa Sall. Et Khalifa Sall n'était pas le responsable départemental de Dakar. C'est vraiment un parti que peut-être certains ne comprennent pas trop par rapport à son fonctionnement, mais nous qui animons ce parti, Vous savez, le moment venu, faites-nous confiance, nous saurons ce que nous avons à faire.
Khalifa Sall est le maire de Dakar. Vous êtes vous-même conseiller à la ville de Dakar, en plus d'être maire de Mermoz. Que pensez-vous de son bilan, Khalifa Sall, maire de Dakar?
Je suis très optimiste et je dois dire que vraiment, il a travaillé dans des conditions très difficiles, il faut le reconnaître, sous l'ancien régime, et il a su gérer la situation. Aujourd'hui, je crois que ce qui était à l'envers a été mis à l'endroit. Je pense que par rapport aux objectifs, la cadence sera un peu plus accélérée, parce que je reste convaincu que maintenant on peut compter sur un exécutif qui saura plus ou moins rester à sa place. Et c'est important, parce que quand on a un président de la République qui se permet de gérer des histoires d'ambulants, une fois de plus, ça devient du n'importe quoi.
Alors, restons à cette mairie. À l'époque, vous aviez eu à dénoncer l'absentéisme de certains conseillers. Les choses ont-elles changé? Vous parliez nommément de Pape Diop, qui est ancien maire, mais aussi du ministre d'État Karim Wade. Que dites-vous aujourd'hui par rapport à ce problème d'absentéisme?
Mais moi, mon point de vue d'alors est toujours le même. Je reste convaincu que les textes doivent être appliqués.
C'est-à-dire?
Mais parce que Pape Diop, aussi bien lui qu'un quelconque autre responsable, ils ont été élus par les populations de Dakar pour se préoccuper... des problèmes de la ville de Dakar. Je suis désolé, les autres conseillers répondent présents, pourquoi pas eux? Et si ce n'est pas le cas, il y a d'autres qui sont en liste d'attente, ils doivent être invités à venir réfléchir avec le reste du conseil municipal sur les problèmes de Dakar.
Soyez plus clair.
Mais ça veut dire qu'ils doivent être mis à la porte, c'est
exclu.
Tout. Mais bien sûr, ça c'est naturel. Mais moi, ça, j'ai déjà donné mon point de vue et je vous dis encore une fois de plus, je ne suis pas le seul à penser de la sorte au niveau du conseil municipal.
Ah, vous êtes nombreux, la
Mais
majorité.
Bien sûr, je crois que vous avez déjà entendu le conseil Yoruba se prononcer là-dessus, ainsi que d'autres conseillers. Bon, maintenant, vous savez, hein, la politique, elle est faite de ce que vous savez. Hein, ça veut dire que quand vous n'avez pas la majorité avec vous, c'est difficile de faire passer.
Donc, vous n'êtes pas majoritaire pour exclure Karim Wade et Pape Diop.
Je dirais pas qu'on n'est peut-être pas majoritaire, parce que notre coalition est majoritaire, mais peut-être ce n'est pas vraiment la préoccupation majeure du conseil municipal. Je le présenterai comme tel. Et puis, bon, vous savez, la nature de Khalifa Sall, ce n'est pas un va-t-en-guerre. C'est que, bon, il cherche à mettre tout le monde à l'aise. C'est peut-être sa formation politique, sa culture politique. Mais moi, je considère que ceux qui ne respectent pas les populations de Dakar n'ont pas besoin, en retour, de recevoir le respect du conseil municipal.
Il nous reste 7 petites minutes de cette émission. Barthélémy Diaz, vous êtes le président du mouvement des jeunes socialistes et maire de Sikap Mermoz. Par rapport justement au fonctionnement de nos institutions, au train de vie de l'État, Pape Diop, on parlait de lui tout à l'heure, président du Sénat, a eu à lancer ici à cette émission le grand jury tel un défi. Ils ne supprimeront jamais le Sénat parce qu'ils ne sont pas convaincus que le Sénat doit être supprimé. Aujourd'hui qu'on voit des noms qui circulent, qui sera choisi pour être au Sénat avec Macky Sall, président de la République, est-ce que ça ne fait pas désordre?
Mais moi, j'ai toujours été partisan de la non-suppression du Sénat, parce que je considère que dans une démocratie majeure, il faut un Parlement. Et ça veut dire qu'il faut deux chambres. Parce que si vous laissez aussi quelque part seulement l'Assemblée nationale faire ce qu'elle a envie de faire, il n'y aura pas malheureusement de contre-pouvoir par rapport à l'Assemblée nationale.
Mais de ce point de vue, les choses ne changent pas avec le président Wade.
Oui, mais vous savez, par rapport...
Il a élu 65% des sénateurs et apparemment c'est ce qui se fera avec Macky Sall aussi.
Oui, mais c'est ça par exemple qui est déplorable. Ça veut dire que si le Sénat doit être maintenu, il faut bien qu'on prenne aussi en compte... le Sénat sera maintenu dans quelles conditions? Si c'est pour que le président Macky Sall nomme 65% du Sénat, je pense qu'il faut avoir le courage de dire que ça sera encore déplorable. Parce que même en France, on sait comment ça fonctionne. C'est comme par exemple cette histoire du président du Conseil constitutionnel et les membres du Conseil constitutionnel. Il faut qu'on apprenne à avancer. Et je pense que Macky Sall, je ne l'ai pas encore entendu dire qu'il va nommer 65% du Sénat. Et s'il y a des choses qui doivent être faites...
En tout cas, les noms circulent.
Oui, non, mais bien sûr que le président de la République va nommer des sénateurs. Ça, c'est compréhensible.
Oui.
Mais tout de même, pas les deux tiers de l'Assemblée, du Sénat. Ce ne serait plus un Sénat pragmatique. Ce serait carrément de la politique politicienne. Et je pense que... Vous savez, Macky Sall, J'ai peut-être tort, mais il ne me donne pas l'impression. Il ne me donne pas l'impression parce que même dans le gouvernement, quand on regarde la composition du gouvernement, une fois de plus, on peut être optimiste. Les législatives, peut-être beaucoup de gens ne comprennent pas sur quelle base nous avons négocié, mais moi, quand je regarde les listes et que je fais le jumelage entre les départementales et la nationale, moi, je crois que c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Maintenant, ceci étant dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de frustration. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de frustration. Oui. Mais vraiment, il faut que les uns et les autres, particulièrement les responsables et leurs bases respectives, comprennent que, par rapport aux enjeux, il n'y avait que ça qui devait être fait. Et aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de se partager un gâteau. C'est une histoire de remettre un pays sur les rails. Et c'est important. Et je me réjouis de voir que des membres de la société civile ont accepté d'apporter leur contribution, que les politiques ont apporté leur contribution, que des syndicalistes ont apporté leur contribution, que des hommes d'affaires, aujourd'hui dans ce gouvernement, il y a un homme comme Youssou N'Dour, quand il a été nommé à Dubaï, il était toujours de la, je veux dire, du monde privé. On a vu aujourd'hui des hommes comme Abdul Latif Koulibaly qui n'était pas connu dans la politique, etc., etc. D'autres prendre des responsabilités, vraiment pour accompagner encore une fois de plus cette dynamique. Parce que le Sénégal revient de très, très, très loin. Et vous allez voir avec les audits, le Sénégal revient de très loin.
Les audits, qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait polémique.
Ça fait pas polémique. Je pense que peut-être c'est le style qui diffère. Parce que moi, je serai aujourd'hui à la place du président Macky Sall, mais je peux vous garantir qu'il y a certains responsables du PDS qui ne se permettraient pas de donner aujourd'hui des interviews. Ça, je peux vous
c'est
le garantir.
Dire, qu'est-ce que vous allez faire?
Mais parce qu'il serait déjà en prison, M. Kane.
M. Kane, je vous demandez à Macky Sall d'envoyer tout ce beau monde en prison.
Chacun son style. Chacun son style. Parce qu'il y a la présomption d'innocence. Chacun son style. Mais vous savez, c'est comme... Aujourd'hui, je vous donne mon point de vue. Oui. Il y a un individu, s'il ne part pas en prison, eh bien, personne ne doit partir en prison.
Qui?
Mais ça, tout le monde le sait. Mais c'est celui qui a géré le ciel, la terre et tout ce qu'il y avait dans ce pays.
On ne sait pas, dites-nous qui.
Mais je ne lui donnerai pas de l'importance, je refuse de citer son nom. Mais tout le monde le sait. Et c'était lui qui était quelque part la personne concernée.
Où est-ce
par
que
la
vous avez mis votre courage légendaire, mais votre franc-parler?
Je vous dis, ce n'est pas une question de courage.
C'est qui limite,
Non, à la limite, c'est du mépris par rapport à ces personnes. C'est du mépris. C'est ça, c'est du
vous
mépris.
Vous voulez parler du président Blaise Wade?
Mais j'ai déjà dit qu'aujourd'hui, je vous dis sur ce que j'ai le plus cher. Je ne peux pas vous dire ce qu'Abdoulaye Wade a dit lors de sa dernière sortie médiatique. Je n'écoute plus Abdoulaye Wade.
Vous parlez de qui alors?
Mais je vous ai dit, ce régime, le dernier régime, ce pays avait été dirigé à l'époque par une famille d'abord. Et ensuite, par une basse-cour qui tournait autour de cette famille. Et aujourd'hui, dans cette famille présidentielle de l'époque, il y avait un individu que tout le monde connaît, qui faisait la pluie et le beau temps. Si cet individu ne part pas en prison, personne ne doit aller en prison. Personne. Parce que c'est cet individu qui est à la base de la ruine de Jean Lefebvre Sénégal, qui est à la base de tous les problèmes presque que le Sénégal a eu à traverser.
Pourquoi il devait aller en prison,
mais quand
cet individu-là?
Mais écoutez, M. Kane, quand quelqu'un comme Abdul Latif Koulibaly, je ne dis pas qu'il a raison, mais c'est tout de même un journaliste d'investigation. Il ne sort pas un roman ou bien une bande dessinée pour amuser la galerie. Il fait des investigations, des recherches. Il publie des ouvrages, preuve à l'appui, il donne des chiffres, il publie des lettres, il explique comment on a pillé les deniers publics. Mais je suis désolé, les responsables sont là. C'est comme si aujourd'hui...
En tout cas, défendant son fils Karim Wade, si jamais c'est de lui que vous parlez, c'est de lui ou c'est pas de lui?
Je vous dis que je ne citerai pas son nom par mépris.
Défendant en tout cas son fils qui s'appelle Karim Wade, le président Wade sur les chantiers de l'ANOSI par exemple, a dit il n'a pas géré, c'est Abdoulaye Baldé qui gérait.
C'est pourquoi j'ai dit que lui, si son fils ne part pas en prison, mais que personne ne parte en prison.
Eh bien voilà, vous parlez de Karim Wade.
Mais je vous ai déjà dit, je ne citerai pas de nom par mépris, M. Kane. Mais vous savez, il faut que nous soyons sérieux dans ce pays. Abdoulaye Wade, c'est lui qui avait pris à l'époque la responsabilité de responsabiliser cet individu. Et dans la vie, il faut savoir assumer ses responsabilités. D'une façon ou d'une autre, vous savez, personne ne va mourir en prison. La prison, ce n'est qu'un passage.
Vous y avez effectué un passage récemment à Rebus. Comment ça va là-bas? Il y a des citoyens qui n'ont pas peut-être votre privilège, qui y sont depuis des années et des années.
Je dois dire à la décharge de l'administration pénitentiaire que c'est très difficile la prison. Parce que malheureusement, l'administration pénitentiaire n'a pas les moyens de faire correctement son travail. Et il faut que les droits de l'hommiste comprennent que c'est vrai que, bon, la politique, ça appartient à tout le monde, mais qu'il faut s'occuper de Rebus. Je vous dis qu'à Rebus, il y a des situations à Rebus qui ne peuvent même pas être expliquées parce qu'ils seront incompréhensibles. Quand on prend 200 personnes, on les entasse dans une cellule de 50 mètres carrés, vous savez, là, ce n'est plus une histoire de droits de l'homme. Ça devient à la limite inhumain. Et aujourd'hui, il faut vraiment faire les efforts pour pouvoir aider l'administration pénitentiaire. Au passage, je salue tous mes amis de Rebus, particulièrement ceux de la chambre 43, 42, avec qui je partageais la même cour. Et puis tout ce que je leur ai promis par rapport à l'assistance juridique et tout, qu'ils comptent sur moi pour le faire.
Barthélémy Dia, je vous remercie. Vous êtes maire de Sicap Mermoz Sacré-Cœur et président du mouvement des jeunes socialistes. Merci d'être venu à l'émission Le Grand Jury, présenté par Mahmoudi Brakane. À la technique, Aline Diassé. Dans un instant, le journal de 12h, Ismaël Camara. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain et surtout, bonne fête de Pentecôte à tous ces pèlerins là-bas du côté de Popanguine.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Na koni kahin Ntada Ntada Sun takro Hifi